Vous êtes sur RTL.
7h30.
Christophe Paco,
RTL Matin.
À 7h30, le point complet sur l'information avec vous, Alexandre de Saint-Aignan, bonjour.
Bonjour Christophe, bonjour à tous.
Et l'alerte enlèvement déclenchée pour un petit garçon dans les Côtes d'Armor.
On l'a appris il y a quelques minutes, les détails à suivre dans un instant. Déjà des premiers gros bouchons, ça ne va pas s'arranger sur la route des vacances. La journée est classée noire par bison futé. Des techniques d'arrestation moins violentes pour les policiers après la fin de la clé d'étranglement. Au moins 3 nouvelles médailles françaises dans les prochaines heures à Tokyo, après du bronze en triathlon cette nuit. Tomates, haricots verts, melons, le prix des fruits et légumes en baisse cet été. Et puis un petit tour et puis s'en vont. La mairie de Paris réfléchit à enlever les poneys qui baladent les enfants dans les parcs de la capitale.
RTL Matin.
Christophe Paco.
Des oui, garçon de 8 ans, type européen, atteint de surdité. 1m35, cheveux blonds mi-longs, vêtu d'un jean et d'un manteau bleu marine, a été enlevé ce 30 juillet 2021 à Lannion, dans les Côtes d'Armor, vers 11h15 par son père qui ne peut le voir seul. Celui-ci, 38 ans, 1m65 à 1m70, cheveux longs bruns et vêtu au moment des faits d'un pantalon beige ou gris, de baskets beige ou grises et d'un bonnet. Il est susceptible de circuler à pied avec l'enfant. Si vous localisez l'enfant ou le suspect, n'intervenez pas vous-même. Appelez immédiatement le 197 ou envoyez un courriel à alerte.enlèvement@intérieur.gouv.fr.
RTL Matin.
Christophe Paco.
Dans le reste de l'actualité ce matin, des premiers ralentissements importants, notamment dans la vallée du Rhône, Alexandre.
La journée est classée noire par bison futé. Pour la route des vacances, c'est sans doute l'un des pires week-ends de l'été, à cheval entre le mois de juillet et le mois d'août. Les départs sont très nombreux, pas seulement sur la route, mais aussi dans les aéroports et dans les gares. La SNCF a prévu de transporter 1 million de passagers à la gare de Lyon. Mathilde et sa mère se pressent avec leurs valises, direction le Cap d'Agde.
Bah là, je suis hyper contente de partir en vacances. Ouais.
Quel est le programme de vos vacances?
Du coup, on a un appartement, on a un bateau, donc on compte profiter à fond. On va aller se balader, profiter du soleil. Moi, j'ai pris 2 semaines et ma mère qui est à côté, elle a pas pris de billet de retour.
C'est simple, plage tranquille et puis après, comme ma fille disait, du bateau. Donc wake, ski nautique, des balades, des restos. En fait, on a décidé de s'éclater, quoi. Franchement, cette année, budget illimité. Parce que d'habitude, on part aussi au mois de février, mais là, cette année, on n'est pas parti parce que là, comme moi, je vous dis, je pars et puis je ne sais pas quand est-ce que je reviens. Je reviendrai sûrement au mois de septembre, quand j'aurai envie de rentrer, en fait, quand ça me plaira plus. Très bien.
Des propos recueillis par Arnaud Touche pour RTL. La promesse de vacances qui démarre, mais pour certains, les vacances, elles sont déjà terminées. Nassima rentre chez elle dans la Drôme avec son mari et leur bébé. Ils viennent de passer quelques jours à Marseille.
C'était super sympa, franchement. Ça nous a fait du bien après toute cette année de Covid, de prendre l'air, de changer de paysage, de voir le soleil, la mer. Mais toutes les bonnes choses ont une fin, comme on dit. Là, c'est déjà l'heure de rentrer. On a 4 heures de route qui nous attend. Et en plus ça, avec un bébé, c'est pas toujours facile, mais on va essayer de faire au mieux. Et on a juste une hâte, c'est de pouvoir reprendre des vacances. Mais on s'est bien amusé. Mais on est content de rentrer aussi.
Des propos recueillis par Samia Belbachir pour RTL.
En plein cœur de l'été, les vacances s'annoncent masquées, notamment au bord de la mer.
On compte désormais une trentaine de départements qui imposent le port du masque obligatoire en extérieur, notamment dans les communes touristiques. La faute à la reprise de l'épidémie poussée par le variant Delta. C'est encore pire en Outre-mer. La Martinique est reconfinée depuis quelques heures et pour 3 semaines. Face à la dégradation inquiétante de la situation sanitaire sur place, des premiers patients doivent être évacués de l'hôpital de Fort-de-France aujourd'hui direction Paris. Reconfinement également sur l'île de la Réunion, un confinement partiel cette fois-ci avec un couvre-feu de 18h à 5h du matin pour 2 semaines au moins. Des nouvelles manifestations contre le pass sanitaire aujourd'hui. 160 000 personnes pourraient se rassembler à travers toute la France. Plus de 3 000 policiers et gendarmes seront mobilisés à Paris où pas moins de 4 cortèges différents sont prévus. Les autorités craignent des débordements avec le possible retour d'un noyau dur de gilets jaunes.
Du côté des forces de l'ordre, justement Alexandre, la fin d'une technique d'arrestation particulièrement controversée.
La clé d'étranglement ne fait officiellement plus partie des techniques de la police depuis hier soir, Guillaume Chiez.
Oui, le directeur général de la police nationale estime que cette technique est trop dangereuse. Le fruit d'une réflexion de plus d'un an menée autour des méthodes d'interpellation. La clé d'étranglement cristallisait les débats depuis le décès de Cédric Chouviat l'année dernière. Le livreur parisien était décédé d'une fracture du larynx lors de son interpellation. Christophe Castaner, alors ministre de l'Intérieur, avait annoncé la fin de cette technique. Mais dans les faits, rien n'avait encore été mis en œuvre et des policiers continuaient à la pratiquer lors d'interventions périlleuses. Désormais, donc, les fonctionnaires de police devront se concentrer sur trois zones pour amener au sol un individu récalcitrant, la tête, les épaules et le buste. Les policiers déjà en poste seront formés à ces méthodes. Le directeur de la police promet également qu'un séminaire sera organisé tous les trois ans pour évaluer l'efficacité de ces nouvelles techniques.
Guillaume Chies du service police-justice de RTL.
Dans un instant, les Jeux Olympiques. Nouvelle moisson de médailles pour les Français à Tokyo. On a une 14e depuis tout à l'heure, plus 3 visiblement, donc et ça ferait 4 médailles de plus. Formidable, formidable, formidable. On en parle dans une minute.
RTL Matin.
Christophe Paco. .fr.
Christophe Paco.
RTL Matin.
RTL à Tokyo.
T'aurais pu mettre la Marseillaise, hein, c'était bien aussi. Non, mais c'est vrai comme musique pour changer, parce qu'aujourd'hui c'est quand même assez incroyable. On n'arrête pas. Journée prolifique en tout cas pour notre délégation au JO.
Pour l'instant, le compteur de médailles est à 14. Depuis la belle médaille de bronze décrochée cette nuit dans le relais mixte, c'est la première récompense olympique dans l'histoire du triathlon français. Première médaille de la journée. Ce sera loin d'être la seule. Quentin Vasselin, on est déjà assuré d'en avoir 3 autres dans les prochaines heures.
Oui, la 15e médaille sera pour Charline Picon en voile. Elle vient de commencer sa medal race, sa course pour le sacre. On rappelle que Charline Picon, 3e des qualifications, est assurée d'obtenir au moins le bronze, mais la championne olympique de Rio espère décrocher l'or une nouvelle fois. Résultat environ dans 20 minutes. La 16e médaille sera soit en or, soit en argent. L'équipe de France féminine joue la finale du rugby à 7 contre la Nouvelle-Zélande. Ce sont quand même les favorites de la compétition, donc on va attendre avant de s'enflammer. Et la 17e médaille va tomber en début d'après-midi, vers 13h30. Elle sera pour les sabreuses Manon Brunet, Charlotte Lambard et Cécilia Berdet. Les tricolores viennent de battre l'Italie en demi-finale. Début de la finale contre la Russie à 12h30. Ça va être chaud, messieurs, dames, cette fin de journée à Tokyo.
Quentin Vasselin pour RTL, on va suivre tout ça avec vous. Un autre espoir de médaille peut-être en judo, c'est l'épreuve par équipe. Isabelle Langer, c'est chaud, mais ça passe pour les Français.
Alors d'abord je vais vous dire un truc, il faut avoir les nerfs solides pour suivre les épreuves mixtes en judo. Les Bleus ont dû s'arracher pour décrocher leur billet pour les demi-finales de cette compétition qui est disputée pour la première fois aux Jeux Olympiques. Je vous explique rapidement, il y a 6 combats, 3 pour les femmes, moins de 57, 70 et plus de 70 kilos, 3 pour les hommes, en moins de 73, 90 et 90 kilos. Il faut remporter 4 combats pour l'emporter. En cas d'égalité à 3-3, il y a un tirage au sort pour désigner une catégorie qui redispute un duel au Golden Score, c'est-à-dire que le premier qui marque à gagner. Et bien c'est ce qui s'est passé tout à l'heure pour les Français. Menés 3-1 face à Israël, ils étaient bien mal embarqués jusqu'à ce que Romain Dicot et Teddy Riner, nos médaillés de bronze d'hier, gagnent Paris-Pont pour mettre les deux équipes à égalité. Tirage au sort et là, et bien c'est Margot Pino en moins de 70 kilos qui a été désignée. Sauf que Margot Pino, elle venait de perdre contre l'Israélienne Sharir au Golden Score et avait déjà passé plus de 11 minutes sur le tatami. Autant dire qu'on était un peu inquiets. Est-ce qu'elle allait arriver à se surpasser? Et bien ouais, c'est ce qu'elle a fait. Il aura quand même encore fallu attendre 5 minutes avant qu'elle plante un hippon et permette à la France de se filer en demi-finale contre les Pays-Bas. Mais il n'y avait qu'à voir le bonheur de Teddy Riner, heureux comme un gamin, pour comprendre combien cette équipe a envie d'aller chercher cette médaille et si possible la plus belle. Et pour à votre information, il n'y aura qu'un seul changement pour la demi-finale face aux Néerlandais. Ce sera Clarisse Agbegnénou qui remplacera Margot Pino.
Ah oui.
Allez, ils nous font vibrer ces judokas français.
Merci, ah bah ils la veulent cette médaille. Ah, hein, ils la veulent sur le pays du jupe. Là, eux, leur finale idéale, ce serait contre le Japon et battre les Japonais.
À la maison.
On verra ça. Isabelle Langer en direct de Tokyo pour RTL.
Allez, pour le goût, on ne sait pas, mais pour le prix des fruits et légumes, il y a du mieux.
Ils sont un peu moins chers cet été après une année record l'an dernier. Les tarifs ont retrouvé leur niveau d'avant la crise, selon le baromètre de l'association Famille Rurale. Dimitri Ramelot, vous êtes allé vérifier pour RTL.
Dans le coffre de la voiture, garé juste devant le marché, plusieurs cagettes pleines de fruits et légumes. 42 euros sur le ticket de caisse de Daniel, qui se déplace une fois par semaine.
Oignons, patates, artichauts, melons.
Et pour faire son choix, le quinquagénaire père de famille, habituellement peu regardant sur les prix, y est plus attentif pour certains produits sans renier certains principes.
Vous avez l'esprit, ça a quasiment 30 euros le kilo, bon bah... j'attends un petit peu. Je privilégie la qualité et le produit français. Après, il y a un moment, il faut savoir ce qu'on veut. Mais si j'ai envie de me faire plaisir, j'en achète.
Pas de tomates, par exemple. 5 euros le kilo en grappe, trop cher. Pareil pour les abricots à 8 euros à cause des gelées et des pluies qui ont ruiné les vergers. Pourtant, Frédéric Imbert, son vendeur, tente de limiter la hausse des prix. Certains ont même baissé.
Globalement, c'est le même prix qu'il y a 2 ans en arrière. Si vous mangez une tomate, elles sont à 3,95 de Provence. Je pense pas que ça soit trop cher. J'ai du melon français magnifique qui est devant vous à 2,95 pièces. Franchement, j'ai vu un peu les produits qui se faisaient dans le midi. On est largement en concurrence avec eux.
Et les vendeurs de fruits et légumes du marché avouent tout de même attendre avec impatience l'arrivée mi-août des quetschs et des mirabelles qui devraient être belles, nombreuses et donc peu chères.
Dimitri Ramelot pour RTL.
Ils viennent souvent de loin pour balader les petits Parisiens. Les poneys pourraient bientôt, Alexandre, disparaître des parcs de la capitale.
On peut les apercevoir dans le jardin du Luxembourg, au parc Monceau ou encore au but de Chaumont. Les enfants adorent monter sur leur dos, mais les associations de protection des animaux s'inquiète de leurs conditions de vie, Sofiane Aklouf.
C'est qui ce poney ?
Esprit, j'ai le brosse.
Alma, 4 ans, termine son tour du parc sur le dos d'Esprit, le poney qu'elle a choisi parmi une poignée d'autres attaché à une barrière. Une petite balade de 500 mètres qui a coûté 6 euros à sa grand-mère. Elle a un peu de peine pour ses poneys.
Ils ont besoin de liberté, d'aller dans les prés, quoi, rester là. Puis ils travaillent. En plus, ce sont des bêtes qui travaillent. Hein.
Mais vous avez cédé.
Mais j'ai cédé parce que je cède à tout à ma petite fille, alors vous voyez.
Un trajet de 100 km aller-retour par jour pour ses poneys et des promenades parfois en plein soleil. Des conditions inacceptables pour Amandine Sanvicen, cofondatrice de l'association Paris Animaux Zoopolis.
Les poneys, pour faire ces balades, ils ont subi un dressage pour accepter d'être montés et d'être manipulés. On voit vraiment le poney comme un animal objet, comme un bien de consommation, c'est-à-dire qu'on fait la balade, on s'en va, enfin, vous voyez, il n'y a aucune relation. C'est considérer les animaux comme des jouets, comme des attractions, et surtout que ça apprend rien aux enfants.
L'association en appelle désormais à la mairie de Paris. Objectif, mettre fin aux promenades en poney dans les parcs.
Un reportage signé Sofiane Aklouf pour RTL.
Vous êtes devenu un petit poney vous ce matin?
Moi je suis un petit peu trop gros format pour les poneys.
Bon, non. Mais non, t'es un motard, vous êtes un pilote. Un pilote de poney.
Exactement.
Voilà, dans les rues de Paris. A tout à l'heure Alexandre de Saint-Hélène, pour venir dans une heure bien sûr. Auparavant les prochaines infos, tout à l'heure à 8h, ce sera avec Mathilde Romagnan.